Some kids on the show yesterday mentioned a new kind of music.
Bonsoir à tous, il est 18h, tout juste l'heure du 6 à 7 de la grenouille. La voix qui vous parle est assise dans un studio, qui se trouve à la friche La Belle de Mai. Mais ce soir, cette voix ne vous parlera pas comme en son habitude d'actualité culturelle, quoique. Ce soir, le 6 à 7 de la grenouille a mis son masque de chantier, empoigné son marteau-piqueur, sa faucille et son Fenwick pour se mettre au diapason du chantier qui démarre en fanfare à la friche La Belle de Mai. Mais une friche, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'en dit Wikipédia? Une friche est un terrain ou une zone qui n'est pas ou plus cultivée ni même entretenue. Des activités marginales peuvent cependant s'y étendre, pâturage, chasse et autres activités de loisirs. La mise en culture d'une friche s'appelle le défrichage. Fin de citation. C'est donc un défrichage auquel on assiste dans l'ancienne usine de cigarettes Seita à La Belle de Mai. Entrée, c'est le chantier, nous dit-on, car depuis samedi dernier à la friche, c'est 5 jours de festivités, de propositions artistiques, de temps de parole et de gastronomie, en résonance avec la belle fête de mai à l'occasion de l'ouverture du chantier au sens propre du terme. Chantier qui va métamorphoser ce lieu en préparation de 2013 et d'après. Depuis 1991, les résidents de la friche, qu'ils soient artistes, plasticiens, diffuseurs de la culture, restaurants, salles de concert ou de spectacle, se sont habitués à travailler dans un espace en friche, dans des immenses espaces qui sentaient encore le tabac, entre les gravats et les algécos qui prennent l'eau. La friche est un mouvement perpétuel. Après moult déménagements, évolutions, circonvolutions, on passe à une autre étape, 18 mois de chantier qui vont balayer, reconstruire, maçonner, façonner, chambouler la friche dans un esprit de réemploi, de redéploiement pour mieux ployer et s'envoler. Et pour en parler ce soir, nous accueillons en tenue de chantier de rigueur Patrick Bouchain, Marc Bollet et Jean-Claude Gondard ainsi que Mathéo. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Patrick Bouchain est architecte, président de la SIC Belle de Mai, société coopérative d'intérêt collectif depuis 2007. La SIC est en charge de la transformation architecturale et de l'aménagement de la friche La Belle de Mai. Marc Bollet est avocat, président de la... Association Système Friche Théâtre depuis 2010. Système Friche Théâtre est en charge du projet culturel de la friche et c'est l'association fondatrice de la friche au début des années 90. Jean-Claude Gondard est secrétaire général de la ville de Marseille, un des interlocuteurs institutionnels principaux avec Daniel Herman, élu à la culture de la friche La Belle de Mai. Mathéo, qui animera la discussion, est coordinateur de Grenouille, directeur de l'association Coopérative, une structure résidente de la friche. Il est aussi membre pour information du conseil d'administration de la SIC et de SFT. Je vous laisse la parole pour un débat.
Merci Lucie. Plus qu'un débat, ça va être une conversation, un entretien. Ce que je voulais vous demander d'abord, c'est qu'est-ce qui vous a amené chacun de vous vers cette friche La Belle de Mai? La question des choix, des désirs, des obligations.
Je réponds le premier.
Patrick Bouchain.
Alors moi, je suis... j'étais attiré parce que c'était différent des autres lieux dont je m'occupais. Et donc je trouvais qu'il y avait quelque chose à Marseille qu'il n'y avait pas ailleurs. Il y avait en même temps quelque chose en effet en friche et quelque chose peut-être de plus dynamique. Il y avait un plus grand nombre de gens. Et ça n'était pas un équipement culturel, c'était un quartier. Et je voulais travailler depuis très longtemps sur la culture comme facteur de requalification de quartiers en difficulté.
Tu peux nous dire, pour resituer pour les auditeurs ou les internautes, quelle expérience passée ou en cours, sur lesquelles tu travailles en ce moment, sur lesquelles tu as travaillé?
Alors, passé, il y en a beaucoup, puisque donc, ça fait 42 ans. Ma première grande expérience, c'est la réalisation des Bouffes du Nord pour Peter Brook. Ensuite, c'est le bâtiment pour Bartabas, donc Zingaro, la volière Dromesco pour Igor. Mais c'est en même temps la salle de concert pour Rostropovitch à Évian. C'est la réalisation de la cour d'honneur du Palais Royal pour Daniel Buren. C'est le passage de l'an 2000 sur les Champs-Élysées. Et en ce moment, c'est la réalisation du Pompidou Mobile, puisque j'ai été lauréat du concours de ce musée mobile et que nous sommes en train de le construire et qu'il va partir sur les routes de France à partir du mois d'octobre. Ensuite, pour la friche de la Belle de Mai, j'ai décidé donc il y a quelque temps de donner la moitié de mon temps dans un temps non rémunéré et de me mettre au service justement de projets qui ne sortent pas ou qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont bloqués par l'habitude, on pourrait dire. Et la friche de la Belle de Mai fait partie de ces projets. J'en ai 5 en France. Un à Tourcoing pour sortir du logement social pour personnes âgées. À Boulogne-sur-Mer pour éviter la démolition de maisons dans le cadre de l'ANRU. En Ardèche pour réintroduire donc de l'agriculture pour des gens modestes. Et puis à La Rochelle. Et mon plus gros projet étant la friche de la Belle de Mai. Et là, donc, en effet, j'ai fait une conversion interdite. Je suis maître d'ouvrage. C'est-à-dire que les architectes n'ont pas le droit d'être maître d'ouvrage. On a à Marseille donc une très grande réalisation par un architecte qui s'appelle Fernand Pouillon, qui a réalisé donc des opérations en voulant être maître d'ouvrage. Il a terminé en prison, donc je voulais faire une expérience pas identique à la sienne, parce que de toute façon il ne méritait pas la prison, mais pour peut-être rapprocher cette maîtrise d'ouvrage de la maîtrise d'œuvre et de la construction. Et j'ai trouvé donc à Marseille un terrain, le vôtre, qui était à mon avis prêt pour cela. Et j'ai trouvé donc une écoute à la ville, et c'est la personne que j'ai à côté de moi, c'est Jean-Claude Gondard. C'est-à-dire que j'ai trouvé un complice, parce qu'il en faut un, il n'en faut pas beaucoup, mais il en fallait un. Voilà, et donc c'est pour ça que je donne autant de temps à la friche de la Belle de Mai.
Marc Bollet, tu es avocat, président de l'association Système Friche Théâtre, donc Lucie en parlait, association fondatrice de la friche la Belle de Mai, animatrice, pilote du projet culturel. Et en même temps, tu ne connais pas la friche simplement depuis 2010, puisque ça fait un habitué de la friche la Belle de Mai.
Oui, un habitué au niveau professionnel, puisque j'avais eu la grande chance, l'honneur de travailler pour la friche il y a une quinzaine d'années. Donc je connaissais l'institution friche de la Belle de Mai. Je n'avais pas eu le bonheur de voir de près, de sentir, de vivre avec la friche dans mes activités professionnelles. Et là, on m'a effectivement demandé... c'est Patrick, je crois, quand il s'est vu un jour aller en prison, dans sa qualité de maître d'ouvrage, il s'est dit « il faudrait que j'aie un avocat ». Et il m'a demandé... Non, je plaisante. L'idée pour moi, c'était de donner un peu de temps ou de rendre du temps à la collectivité par rapport à des acquis personnels ou professionnels et d'essayer de transmettre. J'ai peu de monde le sait, mais j'ai cette passion là au-delà de mon métier d'avocat de transmettre. J'enseigne, je m'occupe de l'école des avocats et cette passion de transmettre, je me suis dit aussi que je pouvais l'utiliser ici au sein de la friche pour essayer avec tous les partenaires de faire passer des idées. L'idée pour moi, c'était de mettre en avant l'intérêt collectif et de trouver des moyens et des outils pour faire vivre et pour développer ce site. Quand on arrive ici et quand on vit ici, on n'en sort pas indemne, c'est-à-dire que on vit quelque chose d'unique. On dit de ce territoire qu'il est unique, mais c'est pas simplement le territoire qui est unique, c'est la façon dont les gens l'occupent, l'habitent, ont envie d'y rester. C'est ça qui est unique et c'est ça qui probablement nous transcende les uns et les autres dans le cadre de ce projet, pour essayer, chacun à sa façon, chacun avec ses modestes qualités et avec ses défauts aussi, de faire passer des messages et de construire. Voilà pourquoi je m'y suis intéressé. Un certain nombre de fondateurs, naturellement historiques, et notamment Philippe Foulquier, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, m'avait demandé de venir. Et la décision, je l'ai prise le jour où je me suis dit... essaye de donner un peu de ton temps pareil que Patrick, tout à fait de façon bénévole. Essaye de donner un peu de ton temps pour la collectivité. C'est ce qu'on essaye de faire grâce à l'appui des partenaires et au quotidien avec Patrick pour faire avancer les choses.
Tu as cité Philippe Foulquier, donc on rappelle, ou on le dit tout simplement, qu'il était jusqu'à il y a quelques semaines le directeur de la Friche Label de mai de Système Friche Théâtre. Peut-être qu'on aura l'occasion d'ici 7 heures de reparler de la future direction ou du mouvement de direction de la Friche Label de mai. Mais avant cela, Monsieur Gondard, alors... Encore une fois, pour les auditeurs, les internautes, j'aimerais bien que vous puissiez dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire général d'une ville comme celle de Marseille, et puis ensuite de nous raconter un peu qu'est-ce qui vous a amené par vos fonctions, mais peut-être aussi par d'autres biais, à vous impliquer sur ce projet de la Friche Label de mai.
En fait, si vous voulez, comme le dit le maire, Jean-Claude Godin, il y a deux colonnes dans une institution comme une mairie ou d'autres. Il y a la colonne politique, et le chef, c'est le maire. Et puis, il y a la colonne administrative, et le chef, c'est le directeur général des services, sous l'autorité du maire. Et par conséquent, effectivement, c'est le chef de l'administration qui coordonne tous les services, qui prépare et met en œuvre toutes les décisions, en particulier les conseils municipaux, mais qui est au courant de tout, forcément, tout lui remonte, et tous les projets, tous les dossiers, surtout toutes les difficultés. Par conséquent, c'est ce rouage qui est intermédiaire entre finalement l'administration, la machine administrative, et puis l'échelon politique qui est représenté par le maire et les élus. Il faut faire la navette en quelque sorte entre deux mondes, entre deux séries de problématiques contraintes. Bien entendu, c'est les élus qui sont choisis par le suffrage universel et qui déterminent le projet. Mais il faut ensuite à la fois le monter techniquement, le financer, et puis réaliser les équilibres, les ajustements, les compromis. Donc un secrétaire général, c'est un peu l'homme à tout faire, le garde-barrière, c'est tout, quoi.
Et quel rapport le secrétaire général de la ville de Marseille entretient avec la Friche Label de mai ?
Ah voilà, ça c'est une histoire effectivement qui est institutionnelle, parce que bon, en tant que représentant d'une institution, je fais partie de l'équipe de Jean-Claude Godin depuis longtemps, depuis 20 ans. Avant d'être à la mairie, j'étais avec lui à la région. Donc quand il a été candidat aux élections municipales de 95, bien entendu, j'étais avec lui et j'ai vu, comme lui, arriver les représentants de la Friche, Philippe Foulquier venant le voir, lui disant « Voilà, il se passe ça à la Friche, c'est à Marseille, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu ?» Et le maire les a bien entendu écoutés, ça l'a beaucoup intéressé, et il leur a dit « Mais vous en faites pas, je vous aiderai, n'ayez pas peur, enfin, ne croyez pas qu'on va vous mettre dehors. » Parce que à l'époque, ils étaient un peu, j'allais dire, des squats, hein. C'était ça, ils n'avaient pas vraiment de droit d'occupation, ils avaient occupé cette friche parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'économie, et la vie n'aime pas ça, et la culture a immédiatement réinvesti ce qui se vidait d'économie, et c'était bien, mais c'était quand même un peu fragile. Donc, sur un site aussi considérable, qui est un vrai quartier, un vrai morceau de ville, qui dépérissait, bien entendu... il y a eu tout un mouvement de revitalisation, et auquel le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, a donné des impulsions décisives. Pourquoi ? Parce que c'était en l'occurrence 120 000 m² en tout. Ben, on a organisé cet espace pour déterminer un pôle, j'allais dire, avec les archives municipales, ce qu'on appelle le pôle institutionnel. Un deuxième tiers a été occupé par un hôtel d'entreprise pour les industries culturelles, pour les industries même de cinéma, de télévision. Et c'est là aujourd'hui qu'il y a les studios de Plus Belle la Vie, ce qui était quand même là aussi pas évident au départ de réussir ça. Ça a été quand même un beau succès. Et puis il y avait ce qu'on appelle l'îlot 3, c'est la friche artistique culturelle, vraiment le territoire des résidents qui... Il a fallu aussi suivre et faire en sorte de permettre à cette initiative, cette expérience, ce laboratoire culturel de pouvoir trouver sa pérennité et puis son avenir. Aujourd'hui, on invente un avenir qui, quand on se projette 20 ans en arrière, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais c'est une grande réussite simplement par le fait d'avoir être là encore 20 ans après et d'avoir un projet aussi important. Et donc moi, en tant que, j'allais dire, chef administratif de tous les dossiers. Je suis venu beaucoup, souvent ici. C'est probablement l'un de mes dossiers fétiches. J'aime beaucoup m'en occuper. Et puis, la rencontre avec Patrick Bouchain était décisive pour moi. Parce que j'ai bien vu là, on avait à la fois la vie culturelle, mais aussi l'innovation en matière de manière de voir les choses. C'était pas simplement de mettre de l'argent pour faire du bâtiment ou pour subventionner la culture, c'était autre chose. Et ça m'a beaucoup plu, et donc c'est ce qui fait que j'ai vraiment fait le maximum pour faciliter, trouver les solutions, aider à trouver les solutions, régler les problèmes administratifs, budgétaires, et puis on en est là aujourd'hui avec Marc Bollet qui a rejoint effectivement l'équipe d'animation de tout ça. Je suis vraiment très heureux d'abord de voir ce projet prendre maintenant une nouvelle dimension, et puis de venir aussi souvent que possible.
Vous parliez d'avenir, alors on va entendre un son. C'est une courte interview avec François Cervantes, qui est auteur, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie d'entreprise, qui est résident de la Friche Label de Mai, qu'a rencontré il y a quelques jours Xavier Thomas.
François Cervantes, bonjour.
Bonjour.
Le chantier de la Friche démarre. Est-ce qu'il te semble que ce qui va être construit correspond aux attentes des résidents de la Friche ? Et peut-être, si tu ne te sens pas de parler au nom des autres, aux tiennes.
D'abord, les attentes, elles sont multiples, des fois précises et des fois floues. Mais la Friche a toujours été, je crois, un ensemble complexe qui avance avec une équipe des résidents et des fois non, mais que la Friche n'a jamais été que le résultat des attentes des résidents. Le bâtiment est une des petites parties. Ce qui est formidable, c'est qu'il va y avoir une transformation visible, violente, mais joyeuse aussi, et que ça va propulser la Friche dans un avenir qui pour l'instant est en grande partie inconnu.
Est-ce qu'il te semble que de ce point de vue, la concertation a été de bonne qualité, suffisante ?
Je sais pas. Le contexte est sans doute beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, enfin le peu que j'en vois. Donc est-ce que ça a été suffisamment bonne concertation ? Sans doute pas. En tout cas, il me semble que l'arrivée de la SIC, l'accélération de 2013 et cet événement des travaux est en train de solder un passé. La Friche a toujours été confrontée à des urgences, et ces urgences-là, elles n'ont pas toujours été avec une consultation paisible.
La Friche a longtemps eu la réputation d'être une citadelle un peu refermée sur elle-même. Est-ce qu'il te semble que ce chantier va un peu mieux inscrire la Friche Label de Mai dans le quartier de la Belle de Mai et dans la ville ?
Je n'ai pas ce vécu-là parce qu'on est arrivé dans un endroit ouvert, donc je n'ai pas l'impression que la Friche soit fermée. Par contre, visuellement, elle est glauque. Il faut être un petit peu volontaire pour venir se promener là. Ça, là-dessus, je pense que les travaux vont beaucoup améliorer. Ensuite, je pense que ce sera le travail des résidents et de la Friche, mais pas comme un sujet de travail seulement, c'est comme aussi une capacité d'hospitalité et une ouverture.
Ces travaux vont conduire à de magnifiques bâtiments. Pour autant, nombre des résidents qui vivent et qui travaillent sur ce territoire ne sont pas en bonne santé, ne sont pas en bonne santé financière notamment. Est-ce que tu n'as pas l'inquiétude que cette nouvelle Friche, résultat de ce chantier, soit la plus belle nécropole culturelle de France ?
Ça peut, mais si on enlève les travaux, on ne change rien à la santé des résidents. Pour l'instant, il y a eu une partie quand même de négociation qui a été très active de la part de la Friche pour éviter que ce soit un outil capturé. Donc il y a encore une marge de manœuvre, mais c'est peut-être plus intéressant de tenter cette chose-là que de ne pas la tenter. Ben, on sait en général comment finit l'histoire, mais pas toujours.
In a little tent, oh, I since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die.
Un classique de la soul music, Sam Cooke, avec, on a essayé de le choisir pour l'occasion, Change is Gonna Come. Je ne sais pas s'il parlait de chantier ou d'aventure culturelle. Et puis auparavant, on entendait à la fois optimiste, réservé, critique en questionnement, François Cervantes, auteur, metteur en scène, résident de la Friche Label de Mai, et directeur artistique de la compagnie L'Entreprise. Peut-être que vous aurez un commentaire à faire ou par rapport à ce que disait François Cervantes. Je voulais aussi vous poser la question du pilotage aujourd'hui de la Friche Label de Mai avec deux entités, si je schématise. Système Friche Théâtre d'une part, qui pilote et anime le projet culturel, et la SIC d'autre part, aménageuse, architecte du projet de la Friche Label de Mai. C'est une expérience qui date qui est assez fraîche, puisque ça date de 2007, hein, c'est bien ça. Comment, selon vous, quels sont les avantages de cette configuration, les limites, les joies, et si on se projette un peu dans un devenir, comment vous voyez ça? Sachant, alors je précise néanmoins que dans les conseils d'administration respectifs de la SIC ou de Système Friche Théâtre, il y a notamment des résidents qui sont à la fois dans le conseil d'administration de Système Friche Théâtre et à la fois dans le conseil d'administration de la SIC, plus la présence des collectivités territoriales et notamment de la ville de Marseille. Alors, si Marc Bollet ?
Oui, volontiers. Je crois que peu importe les structures, ce qui, à mon avis, doit retenir notre attention, ce sont les femmes et les hommes qui les animent et qui les dirigent. En face d'un objectif. Quel est l'objectif ? Ou si on revient un tout petit peu en arrière, c'est vrai que le passé éclaire souvent l'avenir. Qu'est-ce qu'ont voulu faire les résidents historique de la Friche il y a une grosse quinzaine d'années. Avoir une structure qui pilote leur devenir professionnel et qui fasse en sorte d'avoir sur le site une espèce de dénominateur commun qui permette de refléter l'identité qu'ils voulaient donner à leur occupation, à leur squat de l'époque. Bon. C'était la structure ou la coquille juridique d'une jeunesse, d'une belle et folle jeunesse. À un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence que cette structure était peut-être un petit peu vieillissante, ou en tout cas qu'elle ne correspondait pas aux besoins exprimés par les acteurs. Et il fallait effectivement trouver autre chose. Et SFT, ses dirigeants, ses associés, entre guillemets, ont essayé de réfléchir pendant des années et des années à ce que pourrait être une coquille permettant effectivement, sur un territoire très particulier, de permettre tout à la fois une gouvernance et une immense concertation. Parce que c'est un mot qui revient beaucoup ici. Et SFT a alors proposé, avec encore une fois ces administrateurs historiques, de mettre en marche, ensuite grâce au concours et aux compétences de Patrick, une société coopérative, pensant que cet outil allait être le plus adapté possible à la période de maturité qui s'ouvrait pour l'organisation de ce territoire. Voilà. En quelques mots, c'est ça l'évolution de ces dernières années. Mais comme avec les machines, des machins, ces trucs-là, c'est toujours un peu long, et que on est en plus dans un contexte assez particulier où cohabitent sur le site de très nombreuses structures culturelles et artistiques, que chacun a son idée, que son idée est bonne, qu'il faut essayer de rapprocher les points de vue et de sortir de tous ces points de vue un espèce de consensus qui permette globalement au territoire d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, la SIC a fait la démonstration que c'était un outil qui était adapté. ça ne veut pas dire que ça va réussir. Ça veut dire simplement que cet outil est adapté et qu'il faut maintenant que les femmes et les hommes qui se trouvent à l'intérieur se donnent les moyens de définir leur objectif. Alors, en termes clairs pour moi, je crois que si le projet culturel de SFT a été porté pendant des années par l'association SFT, on tend à l'évidence, c'est la démonstration du passé, mais l'avenir sera passionnant, à ce que une structure porte tout à la fois la gestion du site et la détermination dans le cadre d'une grande concertation d'une politique culturelle. C'est tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, mais qui a été décidé déjà il y a de très nombreuses années par tous ceux qui ont bien voulu donner de leurs compétences et de leur temps à ce projet.
Patrick Bouchain.
Non, moi...
président de la SIC.
Oui, président de la SIC. En effet, c'est à la demande des SFT que j'ai rejoint donc, l'équipe, et justement pour réfléchir comment passer à une autre étape. Alors... Bon, pour certaines personnes, je suis considéré comme un archaïque ou un conservateur, parce que voilà, j'ai toujours un doute sur un développement trop rapide, une modernité pleine de ruptures. Et je pense que voilà, pour un individu, on ne peut pas vivre si on n'a pas de logement. Vous voyez, c'est un droit, le droit au logement, c'est un droit que toute personne devrait avoir. Et je pense que pour un artiste, le droit au territoire, le droit d'avoir un lieu dans lequel il peut produire et d'être libéré de cette contrainte, d'être toujours à la recherche donc, d'un endroit différent, parce que ce n'est pas sûr qu'on trouve sur le marché des endroits qui correspondent à la production artistique, je pense que c'est un droit donc, qu'on doit donner aux artistes. Donc quand je suis venu, j'ai un peu proposé comme un paysan simple que la première chose qu'on devrait faire, c'est d'obtenir que la ville de Marseille, non pas nous donne, mais nous remette cet endroit pour nous, pour une durée longue. C'est-à-dire ce qu'on appelle un bail emphytéotique, ce qui n'existe pas en France. Et quand j'ai commencé donc à en parler avec le secrétaire général de la ville de Marseille, il a compris la question, le problème que je posais, mais il m'a renvoyé donc à cette question en me disant « Oui, mais quelle structure pourrait porter un bail emphytéotique ?» Et donc, toutes les structures ne peuvent pas. Exemple, les associations ne peuvent pas. Et donc, nous avons cherché ensemble quelle était la structure qui allait être donc aussi souple qu'une association, mais qui en même temps serait, sur le plan du droit, plus indépendante qu'une association. Et donc c'est assez drôle parce qu'on a fait faire une étude par un cabinet extérieur, Propa Consulting, à qui on a fixé les objectifs, et c'est cette société qui a rendu donc sa copie dans laquelle il y avait la société coopérative d'intérêt collectif. Moi j'aurais jamais osé la proposer. J'avais en tête, mais je connaissais les sociétés coopératives pour en avoir eu une. C'est très compliqué parce que c'est assez complexe à gérer. Et donc c'est ensemble avec Jean-Claude Gondard, quand on a vu que si on éliminait toutes celles qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire les établissements publics de coopération culturelle, les syndicats mixtes, les sociétés d'économie mixte, ainsi de suite, il ne nous restait rien d'autre que celle-ci. Donc on a dit, on va la prendre, mais on va essayer de l'adapter au cas. Et donc c'est là où on a travaillé donc, sur des statuts particuliers donc, d'une SIC, s'adaptant donc au cas particulier de la friche de la Belle de Mai. Et donc pour moi, c'est pour ça que quand les gens disent, oui, ce n'est qu'un outil technique, je pense qu'on a inventé collectivement une structure adaptée à notre besoin. Pour moi, c'est une vraie démarche de démocratie participative. C'est-à-dire qu'on a constitué, en s'appuyant sur le droit, un objet qui est spécifique à notre problème. Et quand donc ce travail a été fait, moi, j'ai été revoir donc Jean-Claude Gondard et je lui dis, mais maintenant, il faut passer donc au conseil municipal le fait que la ville va donner donc à la SIC le bail emphytéotique. Et normalement, il y a une loi, qui est la loi Sapin, qui oblige donc de la mise en concurrence. On ne peut pas, une collectivité ne peut pas, comme ça, donner sans mise en concurrence. Et Jean-Claude Gondard m'a dit, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème, puisque vous êtes déjà occupant, qu'en fin de compte, c'est vous qui avez, pour ainsi dire, structuré le site, que vous avez une proposition. On peut passer et il ne devrait pas y avoir d'opposition au conseil municipal. Moi, j'en ai fait dans ma vie, vraiment beaucoup. J'ai travaillé pour des ministres, pour des présidents d'établissements publics. Là, il m'a épaté. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vois pas bien, mais comme il l'a dit tout à l'heure, il est le chef de l'administration, c'est lui qui décide donc comment on rédige, voilà, il fait rédiger à ses services, mais c'est lui qui décide quand ça passe, parce que c'est compliqué, une assemblée démocratique, il y a des, voilà, il y a un ordre du jour, il y a des délibérations, et puis quelqu'un défend la délibération, et on vote. Et comme c'était dans une période en plus préélectorale, sur le plan municipal, je lui ai fait confiance. Mais voilà, je me suis dit, s'il y arrive, bravo. Et puis, voilà, on a eu le vote du conseil municipal acceptant de donner pour 45 ans, 45 000 m² pour des activités culturelles. Donc je pense que déjà là, vous voyez, c'est une étape de repos. Ça veut dire que ça, c'est un acquis. Donc après, il fallait en effet savoir ce que l'on en fait, parce que ça ne suffit pas, mais c'est quand même un état de repos. C'est, voilà, j'ai droit à cela. C'est une reconnaissance même, de dire, je donne à ce groupe qui me paraît désordonné, en effet, autorité pour aménager un morceau de ville. Puisque 45 ans, c'est à peu près la durée d'un bail qu'on donne pour un office d'HLM qui veut donc construire du logement social. Et la première chose donc, que les résidents ont dit avec moi, c'est 45 000, c'est trop grand, mais on les veut. Parce que dans ces 45 000, on mettra autre chose que de la culture. Et donc, c'est là où, en effet, j'expérimente avec vous. C'est une chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est comment un projet culturel peut devenir un projet urbain et comment, dans ce projet urbain, l'économie et le social est mêlé à la culture. C'est-à-dire que c'est l'anti-ghetto. C'est, en fin de compte, c'est comme si on avait pris une position, on a campé sur notre terrain, et maintenant, ce terrain qu'on nous a donné par bail emphytique, on l'ouvre. Et c'est par cette ouverture qu'on va faire un morceau de ville. Donc c'est en cela, je pense que c'est pour ça que certaines critiques, c'était de dire tout le temps, oui, mais Patrick, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est construire et tout. C'est faux, ça ne m'intéresse pas. Mon métier, je l'ai toujours fait avec de la stratégie. La stratégie, c'était en effet de travailler sur le contenu, mais dont le contenu déterminera le contenant. Et donc, il n'y a pas de forme a priori, rien du tout. C'est un travail qui va se faire en marchant. Et toutes les villes devraient se faire comme ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être une forme nouvelle que Marseille expérimente. On devrait pouvoir déléguer à des groupes qui revendiquent donc de répondre à une obligation de service public ou à un besoin d'intérêt général. On devrait pouvoir déléguer à un groupe qui le revendique en lui déléguant comme des citoyens qui, à un moment donné, veulent prendre part à l'aménagement de leur ville. Donc je pense qu'en effet, c'est le début d'une chose, mais on est assis sur un acquis, et ce début, comme disait Marc, ben, on ne sait pas de quoi il est fait, mais je pense qu'on a toutes les armes, vous-même, ce que vous constituez, 2013 est un facteur d'accélération, et je pense que la ville de Marseille, peut-être par rapport à toutes les autres villes dans lesquelles j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé à Bordeaux, Nantes, Tourcoing, Lille, Lyon, Grenoble, j'ai là, une opportunité que je n'ai eue dans aucune autre ville.
Jean-Claude Gondard, donc, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la ville de Marseille. Peut-être une réaction sur ce qu'on a entendu précédemment, donc la parole de François Cervantes, qui apporte une nuance avec l'enthousiasme et l'optimisme de nos deux présidents ici présents, et puis le regard au titre de la ville de Marseille sur... pour le moment, ce pilotage à deux têtes ou une main, les deux mains unies, donc pour faire référence à la SIC et à Système Friche Théâtre.
Oui, bah c'est normal, j'allais dire, la réaction de M. Cervantes, c'est celle qu'on a toujours quand les choses évoluent, changent, et voir que, j'allais dire, on se lance dans un très grand chantier. Et donc, à la fois la satisfaction de voir... que ça bouge, mais en même temps la crainte que des choses se déplacent et qu'on n'y retrouve pas forcément exactement ces marques d'avant. Mais ça, c'est une loi de la vie. Donc, cela étant, l'optimisme raisonné de votre interlocuteur était quand même là. Et malgré tout, on sentait bien qu'il était intéressé plus que ça, et attentif, et même satisfait de ce qui allait se passer. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien voir qu'est-ce que c'est la friche à Marseille ? À Marseille, la friche de la Belle de Mai, c'est un établissement, enfin, une institution, hein, devenue une institution culturelle en tant que telle, très, très spécifique, très à part, une référence très importante. qui compte, qui a son rayonnement, et surtout parce que justement c'est pas comme c'est pas quelque chose de commun, de courant, ça s'invente, ça se crée en même temps de façon permanente et ça avance comme ça. Et il y a des dimensions dans cette innovation, cette invention de la friche qui intéresse beaucoup de monde. On vient la voir de loin, on vient essayer de la copier même, j'imagine. Mais et elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas figée, ça bouge, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, pourquoi les élus culturels de la ville de Marseille, le maire, et puis moi qui suis finalement l'instrument de tout ce travail, avons-nous fait en sorte que la SIC puisse se faire et que le projet du panorama également puisse se faire. Il y avait plusieurs
problèmes. Pardon, le panorama, c'est donc un lieu dédié aux arts visuels au sens large du terme, au cœur du chantier qui va se dérouler jusqu'à 2013.
C'est l'un des éléments du chantier.
On y reviendra peut-être tout à l'heure.
C'est l'un des éléments du chantier. Mais il y avait d'abord un premier problème, ce sont des bâtiments qui sont anciens, qui sont même souvent assez dégradés, mais il y aurait eu un problème de bâtiment à traiter. Or, la ville propriétaire, responsable, elle devait faire quelque chose. Et ce n'était pas évident de financer un tel projet à cette hauteur. 45 000 mètres carrés, si vous comptez 2 ou 3 000 euros du mètre carré de rénovation classique, vous en avez tout de suite pour 100 ou 120 millions d'euros. C'est pas possible, ça, des échelles pareilles. Donc, il y avait un problème. La deuxième chose, c'est qu'il fallait que la friche reste la friche. Il fallait pas que ça devienne un bâtiment culturel classique qu'on réalise, sous maîtrise d'ouvrage public, État, ville ou autre. Et que il fallait vraiment trouver la solution. Et la proposition de Patrick Bouchain m'a beaucoup plu, parce que à la fois je le connais et je le connaissais comme architecte de grands projets culturels, architecte pragmatique qui fait en sorte que d'utiliser bien l'existant pour le faire évoluer, le transformer. Mais en même temps, il y avait un discours de responsabilité. Et donc quand une communauté culturelle assume le discours de la responsabilité et pas simplement celui de la main tendue, évidemment, c'est pas courant. Donc, cette attitude-là nous a beaucoup plu et on a pris le risque de l'invention juridique. Forcément, c'est nouveau, ça n'existe pas. De même que plus récemment, quand il a fallu monter le partenariat financier pour le chantier, pour trouver l'argent, eh bien, l'État a assumé aussi le risque, on pourra en parler plus précisément, de dire oui, ça peut être considéré, la friche peut être considérée comme un bien que ce soit une société, et donc ne pouvant pas percevoir de tel ou tel type de subvention au-delà d'un certain montant, eh bien, ça peut être considéré comme un mandat culturel, un service d'intérêt économique général, pouvant être financé largement par des subventions publiques. Donc, les partenaires publics, c'est ça le troisième avantage de la société coopérative et de la façon de cette approche de Patrick Bouchain. Le partenariat public a également été très, motivé et intéressé à se souder autour de cette façon de voir, cette façon d'envisager, à la fois un projet culturel, un développement, une innovation culturelle, tant sur le contenant que sur le contenu, bien sûr, mais aussi la façon de le financer et de le porter juridiquement. Donc tout ceci fait que aujourd'hui on en est là et vraiment avec certainement déjà au crédit de l'opération le fait d'avoir réussi à passer toute une série d'étapes, toute une série de caps qui devraient quand même nous rassurer sur l'avenir, puisque quelque part, bien sûr que maintenant il va falloir encore inventer la façon de franchir cette étape et de faire que la friche soit demain un outil culturel beaucoup plus important, beaucoup plus performant, avec de la création qu'on attend de tous les côtés. Mais déjà on a fondé un système. la friche a son avenir et elle a son territoire avec, c'est-à-dire sa marge de, d'autonomie, mais en même temps de responsabilité.
Moi, je voudrais dire à
Marc Bollet.
Oui, merci. Je rebondis sur l'observation, la réaction de François Cervantes tout à l'heure, pour dire qu'il n'a pas complètement tort dans son analyse. Peut-être même a-t-il raison. Je veux simplement dire que nous n'avons aucune certitude. Nous en partageons une seule de certitude, c'est l'enthousiasme que nous mettons dans notre quotidien pour faire avancer les choses. Je dis bien l'enthousiasme, pas forcément l'optimisme, parce que le territoire et un certain nombre de dossiers administratifs ou d'aléas, tout simplement, de la vie, nous font prendre conscience tous les jours que nous ne pouvons pas verser dans un optimisme béat. C'est absolument impossible, partout et surtout à la friche. Bon. Par contre, nous sommes effectivement très, 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 très enthousiastes et... Nous essayons de faire partager chacun à sa façon notre enthousiasme pour dire à tous ceux qui sont à côté de nous, tous ceux qui sont avec nous, venez, réfléchissez et aménagez, faites en sorte de dessiner votre avenir. Bon. Et dès lors, personne, ni Monsieur Cervantes pour lui-même, ni pour d'autres, ne peut imaginer son avenir comme étant obscurci par un certain nombre de choses. Non, nous avons effectivement pour les résidents, pour toutes ces entreprises qui se développent, qui souffrent aussi, on dit, et il faut tenir compte de ça aussi dans la construction du projet, mais que chacun, effectivement, ait cet espace de liberté, d'accord, pour pouvoir d'abord exprimer ses positions et faire en sorte, ensemble, d'arriver à définir un dénominateur commun d'une organisation. Parce que, en occupant effectivement ce site, mis désormais à la disposition dans un cadre juridique qui offre enfin de la sécurité, et c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire qui ne se passe nulle part ailleurs qu'à Marseille, et ça a été dit tout à l'heure et je veux le souligner, c'est maintenant à chacun d'entre vous sur le site d'écrire votre histoire, et donc de ce point de vue-là que chacun mette beaucoup d'enthousiasme, pas de l'optimisme, mais beaucoup d'enthousiasme pour faire en sorte de faire avancer les choses. Nous on n'est que des fédérateurs et ou des vecteurs.
Nous sommes sur les ondes de la Grenouille dans un 6 à 7 un peu particulier à l'occasion de Entrer, c'est le chantier qui se tient depuis samedi, qui se termine ce soir, demain, 5 jours, on en reparlera à la fin, et qui inaugure aussi le chantier de la friche jusqu'à 2013 et bien au-delà. Et nous sommes avec Marc Bollet, président de Système Friche Théâtre, avocat de métier, Patrick Bouchain, architecte, président de la SIC, Label de Mai, et Jean-Claude Gondard, secrétaire général de la ville de Marseille. Avant de les retrouver, on va entendre un autre son, une autre parole de... Alors, c'est pas vraiment un résident de la Friche, Label de Mai, même si on l'y croise beaucoup. C'est l'architecte Mathieu Poitevin.
Mathieu Poitevin, bonjour.
Bonjour. Les partis pris architecturaux, il y en a eu plein parce que c'est tellement... Comment les résumer hein. On est parti depuis le début sur une intuition qu'on avait qu'on était perdu dans la friche et qu'il fallait qu'on puisse faire ce projet en levant la tête et pas en regardant ses pieds. Et donc tous les schémas directeurs que nous avons fait depuis plus de 10 ans consistaient à amener de la lumière sur des épines dorsales et des colonnes vertébrales pour que les éléments puissent se greffer le long de ces lignes de lumière, un petit peu comme des poissons sur un récif urbain. Vous êtes un peu les poissons du récif urbain de Marseille. Et tous les projets et tous les petits projets auront leur place. Même les petits pointus seront là et seront très présents et j'espère aussi prépondérants. Donc c'est sûr que dans le parti pris architectural, oui, les schémas directeurs ont évolué trois fois et même dans leur fort intérieur, les failles de lumière qu'on avait évoquées au début se sont transformées pour devenir aujourd'hui plusieurs trous, enfin une grande faille et un grand trou, plutôt que plein de petits trous, plutôt qu'une grande lame de rasoir comme ça a été le cas à un moment. Bon, aujourd'hui, ce qui va se réaliser, ce sont des locaux qui seront réversibles et qui seront parfaitement bien définis pour des usages et pour 2013, évidemment, mais aussi 14, 15, 16, 17, et je ne sais pas ce qui sera demain. Et c'est pour ça que c'est très bien. Le lieu est en train de se transformer pour les manifestations. qui vont avoir lieu à partir de mercredi. Et petit à petit, tout se transforme tout le temps. Et c'est un lieu qui est, je crois que c'est la plus grande force du projet, c'est que c'est un lieu qui est d'abord un lieu ouvert. Il se trouve que dans la façon dont ce lieu a été fabriqué, puisque c'était une usine, on est en bordure des voies ferrées, que c'est une frontière. Mais ce bloc fonctionne vraiment comme un récif qui doit, je l'espère, et je le souhaite, et je le crois, fédérer des énergies et des envies de tous les lieux à peu près partout pour que les choses puissent venir se cristalliser à cet endroit-là et ensuite se diffuser.
Est-ce que la friche est un projet politique ?
Nécessairement. Nécessairement, fondamentalement, foncièrement, férocement, scrupuleusement et heureusement. C'est un projet qui fait de la ville, donc c'est un projet politique. Dans un autre sens plus courant, je pense que résister, c'est créer, que c'est un lieu de résistance. C'est un lieu de résistance contre tous les cynismes, contre toutes les renonciations de tout ordre qui existent de par le monde tout le temps, et c'est un lieu de résistance et de création. Donc, foncièrement, c'est un lieu de liberté, parce qu'on a le choix. Donc c'est un lieu politique, oui, bien sûr.
Y compris dans le contexte actuel qui n'est pas extrêmement favorable de réduction, de désengagement des politiques culturelles de l'État, des collectivités locales.
Encore plus, c'est le moment où jamais de pouvoir résister, de ne pas justement céder à la tentation du vide et du néant. Encore plus, on prend des risques ici, on se met en danger et on y va. Et c'est pour ça que ce lieu fait jurisprudence et devient un manifeste de création artistique et architecturale. Et le sera en tout cas.
Pour définir les grands axes de ce nouveau chantier, quelle a été ta relation avec les résidents de la friche ?
En même temps ambigu, mais en même temps pas du tout. C'est-à-dire que ce soit un projet qui soit un projet communautariste et pas un projet individualiste. Voilà. C'était le risque quand même, parce que les corporatismes sont forts, même à la friche.
Sens. J'ai cherché dans la rue, j'ai écrit, j'ai aimé. J'ai voyagé, j'ai cru, j'ai nié des évidences. J'ai nagé nu, mais désolé, j'ai pas trouvé le sens. J'ai pas envie de sauter, j'ai pas envie d'une balle. Je préfère exister, même si c'est pour que dalle. J'aime bien respirer, j'aime bien me sentir sale. J'aime avoir de la chance et me faire embrasser. Mais bien sûr, si j'y pense, tout ça n'a pas grand sens. Mais bien sûr.
Si Dominica, le sens, la chanson se finit plutôt bien. Il finit par le trouver. A priori, il finit par trouver le sens. Et auparavant, nous écoutions la voix de Mathieu Poitevin, interviewé par Xavier Thomas. Mathieu Poitevin, architecte, très vieux complice de la friche La Belle de Mai. Alors, peut-être que Patrick Bouchain peut nous expliquer cette complicité avec Mathieu Poitevin.
Alors d'abord, moi j'ai enseigné pendant 15 ans. Et donc, voilà, j'ai créé une école assez particulière où on enseignait sur le terrain. Et puis après, bon, j'ai arrêté et j'ai rencontré comme ça que très peu d'architectes au cours de mes pérégrinations, depuis que je n'enseigne plus, qui font à peu près ce que je voulais enseigner. Voilà. Donc, Mathieu en fait partie et j'ai donc donné à Mathieu un travail complexe. Parce que j'ai décidé de ne pas être l'architecte, mais d'être le filtre entre la contrainte administrative, la contrainte politique et la contrainte des usagers. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire que sa commande soit nettoyée. Parce que tout le problème des sociétés dans lesquelles on est, c'est que la commande, en général, est encombrée. et donc la commande publique n'atteint pas ses objectifs parce qu'elle est encombrée de procédures qui troublent la commande. Et quelquefois d'ailleurs les élus ne retrouvent pas dans la chose réalisée la commande qu'ils avaient passée. Donc j'ai essayé d'être ce filtre, et donc j'ai trouvé Mathieu capable de le faire, et d'ailleurs je l'appelle mon fils, et lui il l'appelle mon père, adoptif. Et donc c'est un peu comme si j'avais trouvé mon prolongement, et que un peu comme quand on tourne un film et qu'on est metteur en scène, on a besoin d'un acteur pour jouer un rôle, on en connaît le sens du rôle, mais on veut pas jouer le rôle, on peut pas être metteur en scène et acteur. Et donc c'est ce travail que j'ai fait avec lui pendant longtemps, et comme il s'est plié à ce travail complexe, et donc on a fait les trois schémas directeurs qui à chaque fois étaient donc soumis aux collectivités, et que le dernier on ne l'appelait jamais 203, pensant que voilà, ça allait être le dernier, mais qu'on ne pouvait pas en faire moins que 3 pour pouvoir avancer lentement. J'ai donc proposé, et là aussi j'ai un petit peu dérogé, que la première tranche de travaux lui reviendrait. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait fait un concours sur 7 ans. En gros, c'est pas du tout du favoritisme. C'est plutôt que de faire un concours perdu avec une image qui ne sert à rien, c'est un travail de fond qu'il a fait pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il a pris un risque. Quand au bout de 7 ans, donc, on a eu les moyens de faire ces travaux, j'ai donc demandé aux collectivités et au secrétaire général de la ville de Marseille si j'étais libre d'aller jusqu'au bout de cette expérience, c'est-à-dire de choisir moi-même l'architecte, et après de choisir avec cet architecte et les bureaux d'études, nous-mêmes, les entreprises qui allaient réaliser les travaux. Et donc là aussi, voilà, c'est une innovation complète, parce que c'est en même temps, comme pour le travail artistique, c'est lui donner de la liberté, il l'a dit d'ailleurs, et puis en même temps, c'est fortement le charger, parce que c'est le rendre responsable. Et alors l'autre chose que j'ai faite avec lui, et que peu d'architectes font, je pense qu'il est un des rares, c'est que pour moi, le bâtiment parle. C'est-à-dire que toute l'architecture est une architecture dans l'époque moderne qui fait la table rase et qui imagine une autre architecture considérant que la précédente était mauvaise. Moi, je pense que la qualité de l'architecture, c'est la trace de la vie qui s'y est passée. Et donc ici, il y a une trace du travail, une trace du travail artistique, une trace du travail industriel. Et donc, il fallait travailler avec cette trace et ne pas être en contradiction avec la trace. Et donc, on a fait un travail qu'aucun architecte ne fait, c'est de parler avec le bâtiment et de prendre ce qu'il a de meilleur. Là où il est haut, là où il est bas, là où il est épais, là où il est frais, là où il est chaud, et éventuellement de mettre les éléments de programme là où le bâtiment va les recevoir avec le plus faible coût. Parce que quand Jean-Claude Gondard disait tout à l'heure, en effet, c'est 2000 euros du mètre carré, c'est parce qu'on parle toujours en ratio. Un musée, ça vaut tant de milliers du mètre carré, un hôpital, tant de milliers du mètre carré, un centre culturel, tant de mètre carré, un théâtre, tant de mètre carré. Mais si on dit, c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est de faire du théâtre. Et à quel endroit on peut faire du théâtre dans un bâtiment qui existe? Quand on a choisi les Bouffes du Nord avec Peter Brook, on peut pas dire qu'il a été satisfait, c'est un théâtre qui avait brûlé. Simplement, il correspondait au prix, parce qu'il pouvait être que celui-là. Et c'est après qui s'est dit, mais si on travaillait dans un théâtre brûlé, si en fin de compte on travaillait avec le noir, le feu et la démolition du théâtre pour en faire le théâtre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une idée a priori de travailler dans une ruine. C'est de la ruine qu'est né en fin de compte le projet des Bouffes du Nord. Et moi je n'ai rien fait. Je n'ai fait que éventuellement de décider de mettre une porte là et c'est tout, mais je n'ai pas fait de projet d'architecture. Et donc pour Mathieu, c'est ce travail-là qui se fait et je pense que ça aussi, ça sera quelque chose qui sera regardé différemment quand on livrera le bâtiment, parce que ça ne ressemblera pas aux architectures que l'on voit dans toutes les revues, où, comme je le dis toujours, car souvent je suis membre de jury de concours, c'est toujours les mêmes arbres, c'est toujours les mêmes voitures d'enfants, c'est toujours les mêmes couples, c'est toujours les mêmes oiseaux, toujours les mêmes ciels, toujours les mêmes nuages, et au loin on voit un bâtiment vaguement dans le flou, et plus il est flou, plus il a de chances de gagner. Parce qu'en fin de compte, moins on s'attache à une image, et donc les architectes donc, jouent ce jeu, en fin de compte, de tromper le jury. Et donc là, je pense qu'on n'aura pas trompé les résidents, les collectivités et nous-mêmes.
Je complète rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, que ce chantier, c'est aussi un projet culturel et un projet artistique en soi. Donc je ne rentre pas dans les détails. La manifestation Entrée, c'est le chantier, c'était donc du 21 au 25. Voilà les bonnes infos. Vous allez sur le site internet de la Friche Label de Mai, vous en saurez plus. Ce soir, vous pouvez venir aussi, et jusqu'en 2013, ça va être un chantier qui est aussi un chantier artistique et un chantier culturel. Mais une dernière question que je voulais vous poser, à laquelle vous n'avez pas tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas posé assez clairement, répondu, c'est, alors on a un président de SFT, un président de la SIC, une directrice générale de la SIC, Label de Mai. Et pour l'instant, il n'y a pas de directeur à System Frisch Théâtre. Alors, Jean-Claude Gondard, secrétaire général de la ville.
Avant cette question qui est importante, moi je voudrais aussi dire une chose. C'est que ce projet, tel qu'il est aujourd'hui et tel que commence le chantier, c'est l'un des projets majeurs de la candidature 2013 et donc du projet 2013. Il y en a cinq. Et donc, j'allais dire quelque part, ils bénéficient de l'effet d'aspiration de 2013. Ils s'en trouvent favorisés, facilités dans la mobilisation des financements, dans le partenariat du Conseil général, du Conseil régional, de la communauté urbaine, de l'État. Et tout ça, c'est quand même aussi un effet d'aubaine. Hein. Faut pas l'oublier. Donc, c'est aussi l'effet 2013. Parce que à côté de la friche, il y a le hangar du J1, il y a le palais Longchamp, il y a le MUCEM, il y a le centre régional de la Méditerranée. Ce sont les cinq doigts de la main, cinq projets. Ça, il faut pas oublier de le dire. Et les artistes, les résidents, tout le monde doit le savoir. Parce que 2013, c'est quand même un grand, grand espoir pour toute la culture.
Merci, vous l'avez dit.
Ce que je voulais rajouter,
Marc Bollet, président de la
CFT, répondre à votre question, bien sûr, mais ajouter de façon à ce que les choses soient claires. Pour moi, ce chantier, on parle de chantier, c'est l'objet de l'interview de ce soir, c'est d'abord un chantier culturel, c'est-à-dire que au-delà des prouesses techniques qui vont être réalisées, je n'en doute pas un seul instant dans les semaines à venir, y a d'abord une volonté de mettre en œuvre un projet culturel et artistique sur le site. Et là, nous avons besoin, avec nos outils d'aujourd'hui, en envisageant des outils de demain, de déterminer ensemble quel sera ce projet culturel et artistique. C'est une mission qui est fondamentale, palpitante, et sur laquelle nous avons besoin effectivement de toutes les forces, de toutes les énergies sur le site. Alors, un mot sur la gouvernance, le directeur, la directrice. Ce qui est important de dire, une bonne fois pour toutes, c'est que les coquilles juridiques n'ont pas d'intérêt. Bon. Elles ont été construites pour les gens qui vivent ici et qui ont envie de continuer à vivre ici. Bon. C'est à eux de décider dans le cadre des organes de ces coquilles ce qu'ils ont envie de faire pour demain. Nous ne sommes qu'à leur disposition, Patrick Bouchain et moi-même, de ce point de vue-là. Bon. Première chose. Deuxième chose, il était évident qu'à partir du moment où c'était un projet d'une envergure considérable à tous les niveaux, et le débat de ce soir l'a mis en lumière, il fallait au sein de SFT que, en remplacement de l'emblématique Philippe Foulquier, nous recrutions un directeur à charge pour lui d'établir, en concertation avec tous les résidents, le schéma directeur, pour reprendre les mots de Patrick, de la politique culturelle et artistique sur le site. Vendredi matin, nous aurons la grande joie, avec Patrick, d'annoncer que le bureau de l'association, suivant cela une délibération d'un jury qui avait été constitué à cet effet, désignera la directrice ou le directeur de SFT. Alors, encore une fois, des oppositions entre la SIC, entre SFT me paraissent être des débats du passé, sans absolument aucun intérêt. Le pouvoir ici est organisé par ceux qui veulent le prendre, et ceux qui l'ont pris d'ailleurs depuis des années, c'est-à-dire ceux qui habitent, vivent, réfléchissent, produisent sur le site. C'est à eux, c'est pas à nous.
Merci Marc. Nous étions avec Marc Bollet, président de SFT, Patrick Bouchain, président de la SIC, et Jean-Claude Gondard. Merci d'être venu jusqu'au studio de La Grenouille, secrétaire général de la ville de Marseille. Patrick, ce soir, on peut aller manger des choses ici ?
Oui, parce que voilà, moi je fais surtout...
Très rapidement.
Oui, très rapidement, parce que je pense qu'un chantier doit être ouvert au public, il est occupé, et donc ce soir c'est un repas. Je pense qu'il y aura des repas tout au cours du chantier, et ce soir on va faire un repas qui est un repas de reste ou un repas raté. C'est-à-dire que moi je pense qu'on jette trop, y compris quand on fait du bâtiment, puisqu'on jette à peu près 1,5 m dans le bâtiment pour faire la tour de Zahadid, 1,5 m de matériaux pour faire 1 m² de surface utile. Je pense que pour la cuisine, c'est pareil. On jette trop de choses. Dans les périodes de crise, on sait faire des choses avec les restes. Et ce soir, c'est un repas de restes pour l'ouverture du chantier.
Avec l'enseignant et artiste Jean-Luc Brisson.
Alors Jean-Luc Brisson est un complice depuis très longtemps et comme Jean-Luc a quitté l'école du paysage de Versailles pour venir diriger l'école du paysage de Marseille, j'ai pour habitude de toujours chercher mes complices et Jean-Luc est en résidence avec ses étudiants sur le site et avec moi ce soir fait ce repas de reste.
Merci Patrick. Est-ce qu'on peut se quitter avec le troisième son, la parole d'un autre résident, Alphonse Halt. Je m'excuse par avance pour manger un tout petit peu sur le programme qui suit. Et vous retrouvez, comme d'habitude, demain de 6 à 7, l'équipe du 6 à 7. Bonne soirée.
Alphonse Halt, bonjour.
Bonjour Xavier. La friche, elle change. Et en fait, je la connais de l'intérieur, puisque je suis un pratiquant tous les jours. Ça me fait un plaisir inouï de voir que tous ensemble, on va aller vers quelque chose de nouveau, mais qui sera mieux pour nous tous.
Mais tous ensemble, vraiment ?
Ben écoute, même dans la dissonance que tu entends, peut-être pas dans le vraiment, je sens qu'il y a un ensemble. Oui, absolument. Mais on est dans une société plurielle, donc forcément... Tous des étantes différentes, de chacun il a son monde à lui, ses réseaux à lui. Mais justement la friche, c'est justement ça que je trouve que c'est la force, c'est que tout est possible quoi. C'est un lieu de tous les possibles en fait.
Sur l'utilité d'un grand pôle dédié aux arts visuels, aux arts plastiques, est-ce que tu as le sentiment que Marseille manquait d'équipement ?
Bien sûr, mais c'est une évidence même. Tous à la friche ici, tous les résidents attendent, enfin je parle de ceux qui sont impliqués dans les arts visuels, en fait tous ils attendent quand même qu'il y a quelque chose de fédéralisé.
2013, c'est un grand enjeu pour la friche, peut-être. Est-ce que c'est un enjeu pour toi ?
Ben évidemment, je pense que 2013 c'est un plus pour nous tous. Voilà, que ça vient pour nous, pour nous embellir notre situation, mais aussi pour embellir en fait le quotidien des Marseillais par les choses qui nous viennent de l'extérieur. Et donc c'est là où j'ai envie de prendre position, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de savoir quel est l'art qui vit tous les jours avec les gens. Moi j'ai envie d'abord que chacun vit avec une œuvre d'art. Et je suis convaincu que ce n'est pas une histoire de prix, en fait. C'est une histoire de partage. C'est ici la friche qui est un catalyseur pour que ce discours-là puisse survivre, quoi. L'art, ça doit exister dans chaque maison. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on aura des œuvres d'art qui existeront, qui n'existeront pas ailleurs, parce qu'elles sont liées à un territoire. Et, enfin, et évidemment, je m'engage là.
Merci Alphonse Halt.
Voilà, c'était Alphonse Halt, artiste, photographe, résident de la Friche Label de Metz. Cette émission a été préparée avec Seb, Gilou, Xavier Thomas, Lucie et Mathéo. Et dans quelques instants, vous retrouvez Bienvenue au Club. Bonne soirée avec ou sans le 88.8.